Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Puma. On est à Dijon aujourd'hui et on est accueilli par un athlète qui a plusieurs sélections en équipe de France, spécialiste du 10 000 m et toujours très à l'aise en cross. Il s'agit de Fabien Palco. Salut Fabien, comment tu vas et comment se passe l'entraînement ?
Salut Quentin, merci d'être venu pour chez moi. C'est un plaisir de vous recevoir, surtout que Renix, ça fait un moment que je vous suis dans vos aventures, donc c'est super d'être là aujourd'hui. Et moi ça va très bien, et toi comment vas-tu ?
Nickel, merci à toi. Merci pour ta disponibilité et donc de nous accueillir chez toi. Pour commencer, on a l'habitude de faire une rapide présentation de l'athlète. Donc toi, tu as 26 ans, tu es athlète Puma, 10 sélections en équipe de France jeune, 3 chez les seniors et récemment une 10e place aux Europes de Cross à Bruxelles en décembre dernier et un record en 28 minutes 07 sur 10 000 m.
C'est exact.
Alors durant ce podcast, on va évidemment s'intéresser à toi. Ton parcours avec des hauts et des bas, comment tu as pu gérer tout ça, mais on va aussi s'intéresser à tes prochains objectifs, aux différents entraînements et conseils que tu pourras apporter aux auditeurs. Et évidemment, on va parler donc de ton sponsor Puma, qui te fait confiance depuis maintenant quelques années et qui vient de sortir la dernière Puma Velocity Nitro 3. C'est tout bon pour toi ?
Oui, c'est tout bon.
Alors, on t'avait quitté donc, le 10 décembre dernier à Bruxelles, lors des championnats d'Europe de cross, où je le disais avant, t'as terminé 10e. C'était un vrai retour de Fabien Palco sur le devant de la scène. Ça a fait quoi ?
Moi, ça fait déjà très plaisir de revenir à ce niveau-là. C'est mon premier top 10 européen en senior. Donc ça, déjà, c'est une belle première étape que je me suis fixée, rejoindre les meilleurs européens donc en cross. Il y a encore du boulot pour la piste, mais voilà, je continue ma progression à mon rythme et ça déjà, ça fait vraiment plaisir.
C'était quoi, un ouf de soulagement au final ?
Non, je dirais pas ça comme ça, plus enfin concrétiser un résultat qui me semble cohérent avec mes objectifs. Et bah, après, forcément, j'ai eu pas mal de hauts, des bas, donc non, c'est vraiment une belle première étape, je dirais.
Ouais, alors, on va y revenir justement sur ces hauts et ces bas. En catégorie jeune, tu étais vice-champion d'Europe de cross en junior. C'était à Hyères, donc en France, en 2015. C'est un moment, au final, où un peu toute la France t'a découvert à ce moment-là. Ça a fait quoi, on va dire, c'était quoi, 18 ans ? T'avais 18 ans à ce moment-là. Ça fait quoi d'être sur le devant de la scène comme ça ?
Moi, j'étais junior 1 et j'ai eu beaucoup de mal, je dirais, à réaliser parce que je n'ai pas forcément compris ce qui m'arrivait si vite. Donc, c'était quelque chose d'assez fort, mais d'un autre côté, c'était peut-être assez tôt. Je dirais pas trop tôt parce que c'est arrivé, mais on va dire que je m'entraînais pas comme un junior assez normalement. Je m'entraînais à l'époque 6-7 fois par semaine et je m'attendais pas à me retrouver là si vite. Et la preuve, en junior 2, je fais 36e, donc une grosse désillusion. Et on va dire que non, c'était quand même fort comme moment, forcément.
Forcément fort, mais au final, derrière, c'était peut-être plus difficile à se remettre en route ou comment t'expliques ça ?
J'ai eu, quand on a un résultat assez qu'on s'y attend pas forcément assez vite, on va dire que pour moi c'était assez simple, on se disait, et après je me suis j'ai eu ce petit moment, j'ai eu aussi des grosses déconvenues où j'ai, pendant les années qui ont suivi, avec notamment les premières années Espoir, Junior 2, où j'ai eu deux virus. Donc ça, on a mis du temps à le découvrir, mais c'est ce qui explique aussi ces deux années un peu de moins bien. Il y a eu aussi forcément l'entrée en études, en L1, L2. Donc c'était un nouveau rythme. Donc il y a eu beaucoup de choses en même temps et c'est là où je me suis plus vraiment révélé. J'ai révélé mon caractère, ma force de travail, où je me suis dit est-ce qu'on veut me retenir comme quelqu'un qui a des qualités et je capitalise pas forcément là-dessus, ou plutôt quelqu'un de travailleur qui va vraiment continuer à s'entraîner, à essayer de continuer à progresser et de revenir par ce biais-là. Et je me suis dit j'ai pris la deuxième option.
Et tu as quand même douté pendant cette période où tu étais sûr de toi, sûr de tes forces, que ça allait revenir ?
Les deux, je dirais. Forcément, il y a des doutes, et j'en ai encore eu quelques-uns là, il y a quelques semaines. Des doutes, je dirais que c'est... Bah, pour tout sportif, il y en a qui en parlent, il y en a qui n'en parlent pas, mais on en a tous des doutes, ça c'est normal, c'est humain, on est tous constitués à peu près normalement. Mais j'ai toujours eu cette petite intime conviction que j'étais capable de faire mieux, et encore aujourd'hui, et ça j'espère que ça va me suivre toute ma vie.
Et comment t'as vécu cette période où tu t'entraînais, mais les résultats n'étaient pas forcément là. Comment tu l'as vécu au final cette période ?
Bah, je l'ai vécu, comme je l'ai dit, des fois ça allait, moralement ça allait. Il y a forcément des fois où c'était bien plus compliqué, avec beaucoup de doutes, où on se remet en question, on se dit est-ce que j'arrête, est-ce que je continue. Après, j'ai toujours eu personnellement cette petite voix qui me disait non, continue, c'est ça que t'aimes faire et sois persévérant. Et bon, pour le moment, j'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixé, j'en ai atteint quelques-uns, mais il y a encore beaucoup de routes et j'aime beaucoup en fait. Le chemin qui est assez sinueux, où il y a des hauts et des bas. Et ça, en fait, j'aime beaucoup le processus de mettre en place des choses. On fait face à des problèmes, on essaye de les résoudre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant en fin de compte.
Et souvent, les athlètes, quand tout va bien, bah, forcément, il n'y a pas de critique, il n'y a rien. Quand ça va moins bien, certains reçoivent des critiques, notamment sur les réseaux sociaux et ce genre de plateforme. Est-ce que toi, c'est quelque chose, ça t'est arrivé, ce genre de choses, ou pas du tout?
Je sais pas si on peut... Forcément, je dis je sais pas, mais peut-être. Après, honnêtement, je fais pas attention. En fait, je suis... moi, ce que j'ai envie de faire, c'est le plus important. J'ai trouvé ma voie et j'aime ce que je fais. C'est pour ça que quand je me suis pas entraîné beaucoup là, ces dernières semaines, ces derniers mois, là, j'en parle récemment, mais ça montre aussi à l'image des dernières années. Mais moi, quand je fais pas vraiment ce que j'aime, donc m'entraîner... C'est un petit peu compliqué. Après, bon, j'ai aussi d'autres passions, donc j'arrive à jongler avec ça. Mais on va dire que je me concentre vraiment sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime, et les critiques, je les écoute. Quand elles ne sont pas construites, en tout cas, je ne les écoute pas et je n'en tiens pas compte. Après, quand forcément elles sont construites, je prends note et j'essaye de vraiment me servir des expériences des autres et vraiment de faire un mix pour continuer à progresser. Donc ça, par contre, quand elles sont vraiment positives, quand elles sont construites, pardon, parce qu'elles peuvent être des critiques négatives.
Ah, bien sûr.
Mais justement, j'essaie d'utiliser cette force, d'analyser et pour progresser plus vite, en fin de compte. Parce que l'expérience de chacun aide... avancer plus vite.
Totalement. Et au final, qu'est-ce que tu as mis en place sur ces années-là pour continuer à t'entraîner, revenir et notamment faire cette 10e place récemment aux Europe de Cross?
Alors, je vais prendre l'exemple de l'année de 2021. Donc, j'avais fait une super année en 2022 avec mes deux premiers titres de vice-champion de France sur 5000 et 10000. Avec 13,35 sur 5000 et 28,07 les deux en championnat de France. Donc, ce qui pour moi était une belle première consécration en senior. Et ensuite, en fait, je me suis mis, pour vous expliquer un peu la trame, je me suis mis un petit peu une pression pas nécessaire en fait avec le report des Jeux. Et je me suis dit, bon, bah, allez, faut y aller à fond. Tu as peut-être 1% de chance d'aller aux Jeux, mais il faut y aller. T'entraîner plus, et je suis rentré justement dans le surentraînement. Et ensuite, à la coupure, avec une saison quasi blanche où j'ai fait des chronos, on va pas en parler. Et ben, à ce moment-là, pendant les vacances, j'aime bien prendre un petit temps où je prends un carnet et puis je note un peu les points positifs, les points négatifs, et j'essaye de vraiment réfléchir à quoi mettre en place pour la suite. Donc j'ai vraiment ce moment où je peux penser à ça pendant plusieurs heures, plusieurs journées, et vraiment à construire en fait comment faire pour pallier aux échecs et aussi aux réussites, comment analyser les réussites, comment analyser les échecs pour vraiment rebondir et apprendre et en fait gagner du temps. Et à ce moment-là, il y avait, pour éviter le surentraînement, je me suis dit, bon, ok, comment on va faire ? Et c'est là où je me suis dit, ça peut être intéressant de travailler avec des zones un peu plus physiologiques. Donc j'ai pris après un contact avec Jonas Foro, qui est scientifique et physiologiste qui bosse avec la Fédé de ski de fond actuellement.
Okay.
Et qui m'a suivi. On a fait des tests physiologiques, on en a fait un. Ça a permis de montrer en avant mes facteurs limitants, mes points forts, mes faiblesses, et là où je dois progresser. Et on s'est rendu compte que, par exemple, mon seuil 1 était ridiculement bas, alors que malgré les chronos que j'avais fait, j'avais un seuil 1 à peu près à 15 km/h, donc ce qui est très faible en faisant 28,07. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, il y a du boulot. Et avec. Donc, j'ai commencé à travailler un peu, pas encore au lactate, mais on avait fait le test avec lactate et je travaillais plus aux fréquences cardiaques parce que je voulais voir si c'était possible aussi d'incrémenter ça dans mon entraînement avec mon ancien coach Rémi Geoffroy. Et du coup, on a essayé de faire un peu plus de footing dans les bonnes zones, de faire un peu plus de seuil 1, de seuil 2. Donc, on a essayé comme ça, en fait, de... À la base, c'était vraiment pour éviter le surentraînement. C'est comme ça que je me suis intéressé en fait aux filières.
Okay.
Il n'était pas forcément encore question de faire plus de seuils ou quoi. C'était vraiment essayer de ne pas m'entraîner trop vite et de ne pas trop en faire, ce qui est un peu mon défaut et ça, je le reconnais.
T'as tendance à faire quoi? Trop en kilomètres et trop vite ou...
Peut-être pas trop vite, mais en général, j'ai envie d'en faire plus.
Toujours plus,
ouais. Ouais. Ce qui est assez classique, mais ça, c'est... Bon, moi, je le sais, donc on essaye de composer avec. Et ensuite, on a fait ça depuis 2 ans, donc depuis 2021, donc ça fait peut-être un peu plus maintenant.
Alors, tu parlais justement de ton ancien entraîneur. Tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas longtemps.
Oui, hier.
tu disais qu'effectivement, vous avez mis fin à votre collaboration qui durait maintenant depuis bien 10 ans.
Depuis Junior 1. Mais il était là depuis KD1. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années.
Ouais, une bonne dizaine d'années. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette collaboration qui s'est finalement arrêtée aujourd'hui?
Oui, après, quand elle s'est arrêtée, c'est uniquement du point de vue de l'entraînement. On est toujours en très bon terme. On discute encore beaucoup quand je le vois encore à l'entraînement, vu que je suis toujours basé à Dijon. Donc ça, et je tiens surtout à le remercier pour toutes ces années, parce que c'est quand même grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Et ça, je suis très reconnaissant. C'était une aventure humaine très, très riche et très forte. Et rappelle-moi la question, s'il te plaît.
Pourquoi, pourquoi vous avez arrêté cette collaboration?
Eh bien, en fait, justement, c'est pour... Je suis rentré un peu, du coup, je me suis intéressé un peu plus à l'entraînement, au fameux seuil 1, seuil 2. Bon, il y a débat, il n'y a pas débat. Mais en tout cas... Je me suis intéressé un peu plus à m'entraîner un peu plus dans les bonnes zones, peut-être un peu moins vite, faire un peu plus d'aérobie. Et du coup, moi, ça m'a vachement intéressé. Rémi a une méthode qui est plus sur tout ce qui est basé sur la VMA, plutôt assez intensive. Et moi, j'ai vu d'expérience ensuite, au fur et à mesure des années, qu'en m'entraînant un petit peu moins vite dans les bonnes zones, à faire un peu plus de seuil 1, un peu plus de seuil 2, un peu moins de VMA, il y avait des résultats qui étaient pas mal avec le fameux top 10 aux Europes. Et donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai voulu être plus curieux de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de voir un peu autre chose aussi. Et puis même, j'avais besoin de tester. Je ne dis pas que ce sera mieux la nouvelle méthode, mais au moins, j'ai envie d'essayer.
Oui, ça n'enlève en rien tout le travail qui a été fait, mais ça permet justement aussi des fois de changer de méthode et de prendre goût, on va dire, à autre chose et de retravailler un peu différemment tout ça.
Ça, c'est sûr.
Au final, tu me parlais, tu as eu pas mal de soucis de santé, des virus. Tu en as à nouveau eu cette année. C'est pour ça que tu t'es un peu moins entraîné en ce début d'année.
Oui, alors depuis la reprise de la saison 2023-2024, même en septembre, avant les Europes de cross, j'ai été un peu embêté avec... j'avais mes examens de sortie à l'école de management et j'ai été tombé malade et j'ai eu du temps à revenir. Et c'est pour ça que cette 10e place aux Europes est quand même assez belle parce que, surtout en un mois à Font-Romeu, j'ai réussi à construire des choses assez intéressantes sur relativement peu de temps. Et donc ça, déjà, c'était intéressant. Et ensuite, là, depuis janvier, j'ai été pas mal embêté avec une bactérie qui m'a fait que je faisais que tomber malade. Elle m'a affaibli. Donc tout le mois de janvier, je me suis quasiment pas entraîné. Enfin, si, je me suis entraîné, mais j'ai fait des compétitions, mais on comprenait pas pourquoi ça allait pas. Donc j'ai été diagnostiqué mi-janvier, fin janvier, que j'avais cette fameuse bactérie. Donc on a compris des choses avec mon nouvel entraîneur. Et ensuite, en février, du coup, j'ai un peu brodé. Et en fait, je suis ensuite retombé malade 3 semaines après, une fois que mon système immunitaire, en fait, était un peu au plus bas. C'est ce qu'on m'a expliqué. Du coup, j'ai eu une angine blanche pendant 3 semaines. Là, c'était un peu...
assez sévère.
Ouais, et puis c'était un peu long. Moralement, honnêtement, quand ça fait déjà 2 mois où on ne voit pas le bout, on accepte. Mais quand c'est un mois de plus, là, en revanche, c'était un mois de trop, c'était un peu compliqué. Quand justement, on est privé de faire ce qu'on aime le plus, là, totalement. Honnêtement, c'était un peu dur, cette période.
Et aujourd'hui, ça va mieux ?
Oui, ça va mieux depuis 2 semaines. Ouais. Je vais enfin finir ma 2e semaine d'entraînement. Et justement, dimanche, donc dans 2 jours, je vais rejoindre mon nouveau groupe. On se réunit tous à Font-Romeu là, pendant quasi 5 semaines. Donc ça, j'ai hâte. D'accord. Aussi. Ça va me relancer dedans, dans la dynamique.
Et c'est quoi la suite de la saison, ce qui est prévu ?
La suite de la saison, ça va être un focus sur 5000 et potentiellement du 10 000. On ne se ferme pas la porte. Après, j'aimerais bien avoir une réponse précise, mais là, en fait, au vu de la forme qui est assez incertaine, on va déjà construire des choses à Font-Romeu. Et si ça revient assez vite, potentiellement comme avant les Europes de cross, ben, si ça se trouve, je vais faire ma rentrée assez vite dans la saison. Et s'il faut se laisser 2 semaines, 1 mois de plus de prépa, quitte à louper une potentielle qualification ou au moins un gros 5000 pour prétendre à faire un chrono pour les Europes, on le fera, mais s'il faut passer outre... on va dire qu'on remet en perspective plus le moyen terme, même si c'est assez fou de dire ça en l'année des Jeux chez nous.
Ouais.
Mais on va dire que je suis prêt à voir à plus long terme et je pense que c'est plus bénéfique que vouloir se précipiter à tout prix et se prendre un mur.
Bon, on va en reparler encore dans ce podcast sur la 3e partie. Justement, je disais, tu as eu, donc on l'a dit, tu as eu des hauts, des bas. Mais même dans les bas, la marque Puma t'a soutenu, a continué à te faire confiance. Et c'est justement, ça me fait un peu la transition vers la 2e partie. On va un peu plus parler de ton sponsor.
Oui.
Avant ça, on va juste faire une courte page de pub et on revient tout de suite.
La Velocity Nitro 3 de Puma est la toute dernière chaussure d'entraînement de la marque. Confortable, dynamique et polyvalente, elle est la partenaire idéale pour courir au quotidien, que vous soyez un coureur débutant ou confirmé. Alors, n'hésitez plus et achetez votre paire chez Puma.fr.
On est de retour sur Callroom et toujours à mes côtés, Fabien Palco. Alors, je parlais du coup de Puma qui a continué à travailler avec toi malgré tout ce qui s'est passé. C'est une belle marque de confiance, j'imagine, pour toi.
Oui. Après, il n'y a eu qu'une année un peu compliquée avec Puma parce que j'ai commencé mon contrat en 2021 et c'était l'année où j'ai eu ce fameux surentraînement et après, les 2 autres années sont plutôt très bien passées. Donc non, franchement, je suis vraiment content de cette collaboration, surtout que j'ai aussi fait mon stage de fin d'études au siège Puma à Herzogenaurach en Allemagne. Et ça, c'était aussi une super expérience. J'étais au marketing, donc j'ai aussi pu voir un peu ce que faisait le sport marketing et aussi l'innovation. Donc, j'ai vraiment vu ces trois postes. Et non, franchement, c'était génial. J'ai beaucoup appris et j'ai vraiment aimé avoir cette vision du côté de l'athlète, mais aussi du côté de l'entreprise. Et que Puma souhaite collaborer aussi avec moi dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était génial. En fait, tout le monde est ressorti plus enrichi, en fait,
de l'expérience vécue et...
Oui, de l'expérience et puis même de ses visions en fait, entreprise, athlète et puis sponsor en fait.
Et pour toi, ce genre d'expérience, ça te permet, en plus c'est ton sponsor, je pense que ça te permet aussi de voir un petit peu tout le travail qu'il peut y avoir aussi derrière les produits que tu utilises au quotidien au final.
Ah bah ça c'est sûr, rien que d'un point de vue de l'innovation, j'ai vu toutes les problématiques qu'ils rencontrent, comment ils font une bonne chaussure. Et puis après, j'ai vu aussi comment ils arrivent à faire des événements, à des activations avec les athlètes. J'ai vraiment vu tous les côtés en fait, du processus de l'idée, de la conception à vraiment le lancement du produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a particulièrement intéressé. Et maintenant, j'ai un regard un peu encore différent quand on voit, par exemple, des activations comme avec vous, par exemple, pour les... une paire qui va sortir ou la Velocity Nitro 3. Donc non, c'est vraiment génial.
Et justement, toi qui as vu... alors, tu as vu ça directement dans les bureaux, mais tu as aussi vu l'évolution de par ton expérience et de par ton partenariat avec eux. tu as pu voir l'évolution de leurs produits. Je pense que tu as aussi pu un peu donner des fois un peu ton avis sur ton ressenti aussi, ce que tu, pour que eux derrière puissent aussi améliorer leurs produits. Je pense que c'est pour toi, c'est aussi un gage de confiance.
Oui, bien sûr. Et puis c'est vraiment Puma, l'avantage avec la marque Puma, c'est qu'il y a eu ça, vraiment cette implication et cette, ils ont un fort intérêt de l'avis aussi des athlètes qu'ils ont. Et il y a vraiment cet échange qui est continu. Et pour moi, ça, c'est vraiment intéressant en tant qu'athlète.
Et donc, justement, on va plus un peu parler le côté produit de chez Puma. Ce que tu maîtrises aussi, puisque tu les mets tous les jours. Je disais, il y a eu un nouveau modèle qui vient de sortir. Oui. Donc, c'est la Velocity Nitro 3. Pour toi, c'est une chaussure, j'ai déjà vu, tu l'utilises à tes entraînements. C'est oui. Sur quel type d'entraînement que tu vas utiliser ce modèle?
On va dire que ce modèle, c'est une running très polyvalente. Donc, je vais l'utiliser plus pour mes footings, pas de récup, parce que j'utilise plus la Magnify 2, qui est vraiment...
Encore plus confort et
ouais,
plus amorti.
C'est vraiment un gros amorti avec, je crois, 40 mm de drop. Donc, c'est vraiment un truc que j'adore sur les jogs faciles. Donc, la Velocity Nitro 3, je l'utilise plus pour les footings aux alentours des 15 km/h. Des fois, dès que j'ai des footings un peu plus rapides, je la mets. C'est vraiment à ce moment-là que j'aime bien l'utiliser. Après, mes échauffements, mes récup. Elle est très polyvalente, donc en fait, on peut la mettre sur beaucoup de choses.
Oui, ce que j'allais dire, c'est un peu au final une chaussure un peu à tout faire. Si maintenant tu dois partir et ouais. Tu dois emmener une paire, ça peut très bien mettre dans le sac et faire tout avec. Ouais.
Bah, chez Puma, il y a vraiment deux modèles les plus polyvalents. Bah, il y a la Velocity Nitro 3 qui vient de sortir. Il y a la Deviate Nitro 2.
Deux.
Donc c'est vraiment pour moi les deux modèles, on peut tout faire avec.
Alors justement, on est donc sur la Velocity Nitro 3, on est donc sur une chaussure d'entraînement, on est sur un drop de 10 mm, un poids de 265 grammes, et c'est aussi le tarif de 130 €. Donc un excellent rapport qualité-prix quand on voit d'autres modèles qui sont souvent bien plus chers. Pour un modèle où on peut faire quasiment tout, c'est sûr que c'est un avantage. Alors toi, évidemment... Ça te concerne moins puisque tu es sponsorisé.
Ça, c'est sûr.
C'est un avantage là aussi. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaite avoir une chaussure pour un peu au quotidien, faire un petit peu tout avec, c'est un super modèle.
Ah bah oui, franchement, si vous souhaitez tenter l'expérience Puma, moi, c'est un modèle que je recommande. Hein. Niveau polyvalence, ouais, il y a tout.
Et toi, tu avais essayé la version précédente de celle-là?
Oui, justement, c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a quelques minutes. C'est que Puma... est revenu dans le running en 2021 avec leur première Velocity 1. Et j'ai vu une évolution entre la Velocity 1, 2 et 3. Et franchement, c'est une marque qui avance très vite, qui innove énormément et qui, à mon sens, mérite un peu plus qu'on s'y intéresse. Et franchement, je conseille à tout le monde de vraiment tenter l'expérience.
Alors, donc, il y a la Velocity, il y a évidemment d'autres modèles. Toi, tu as une rotation chaussure avec à peu près... Combien de paires? Quels sont les types de paires que tu vas avoir? Et on va dire sur quelle séance ou quelle compétition tu vas les mettre?
Alors, j'ai une rotation avec, je dirais, 4-5 paires. Donc la Magnify 2 avec une grosse épaisseur de semelle pour tout ce qui est footing facile ou dès que je suis un peu cassé musculairement. Mm-hmm. La Velocity Nitro 3 qui alterne aussi avec celle-ci et pour mes footings un peu plus rapides ou mes footings au quotidien. J'ai la Deviate Nitro 2, donc ça, c'est des fois, je la mets pour mes seuils 1 ou alors mes sorties longues, parce qu'il y a quand même une plaque carbone, et puis la mousse, c'est de la Nitro Elite, donc un meilleur retour d'énergie, meilleure économie de course. Donc ça, ça me permet de me préserver musculairement. Donc ça peut être aussi sur mes footings plus actifs. Mm-hmm. J'aime bien varier aussi un peu les plaisirs.
Ça fait toujours du bien de changer.
C'est ça. Après, j'ai la Deviate Nitro Elite 2, j'ai hâte de parler du prochain modèle. Je ne l'ai pas encore testé, mais bon, ça c'est voilà. C'est
qui là. A l'air, entre parenthèses, excellent et on a hâte de voir la suite.
J'ai hâte aussi de voir le bon. Mais oui, celle-ci, du coup, je l'utilise pareil, soit mes seuils 1, mes seuils 2 et toutes mes séances en fait plus rapides. Et j'alterne aussi avec la Fast Air 2 qui a vraiment un gros gain d'économie de course. J'étais honnêtement pas fan avec le premier modèle, mais le 2, j'en suis vraiment conquis. Et justement, le gap, encore une fois, de l'équipe de l'innovation, elle est énorme.
Ouais, on avait déjà, on a déjà parlé pas mal de cette Faster 2.
Ouais.
Il y avait une évolution assez dingue par rapport à la première qui était un peu plus ferme, un peu qui était dynamique, mais plus sur du plus court. Et là, maintenant, on peut vraiment aller sur du long.
Franchement, je ferai un marathon sans aucun souci avec la paire. Même un deep band, tout. Franchement, ça, c'est vraiment la chaussure de séance que j'utilise.
Donc, sur une compétition, c'est ce modèle-là que tu vas mettre ?
Sur la route, oui.
Même sur, maintenant, si tu fais un 5 km, ce serait plutôt celui-là ou la Elite ?
J'hésiterais quand même avec la... On n'en a pas parlé, mais la Fast Forward, la FWD, qui, pour moi, a une conception très intéressante. Encore une fois, bourrée d'innovation. Et franchement, pour un 5 bornes, je pense que celle-ci peut vraiment... elle est très agressive avec...
Le talon qui est vraiment coupé à l'arrière. Et...
Oui, et surtout à l'avant, où en fait, tu as une bascule. J'ai jamais ressenti ça sur une autre paire. C'est vraiment, on est propulsé littéralement vers l'avant avec le fait que ce soit coupé à l'avant. Et franchement, c'est un modèle... J'hésiterais vraiment entre la Faster et celle-ci.
Ok. Il y a justement, on le disait avec la Elite 3 qui sortira dans les prochains mois, il y a de belles choses et de belles innovations. Tu l'as dit toi-même que Puma, depuis 3 ans, ils innovent énormément.
C'est fou.
Pareil, c'est quelque chose pour toi qui te motive aussi à courir avec ces modèles, parce que forcément, à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, je pense que... Ça doit être un peu l'excitation de pouvoir essayer ce modèle.
Ah bah ça c'est sûr, et puis d'autant plus qu'à chaque fois ils sont vraiment de mieux en mieux, et puis je dirais que c'est de manière assez radicale. À chaque fois je suis moi le premier étonné, et franchement j'ai hâte de voir les nouveautés, je suis à chaque fois comme un gosse.
Tu m'étonnes. Alors justement, en parlant des prochains mois, donc il y a différentes échéances qui arrivent, on en a vaguement parlé avec notamment les Europes, et évidemment il y a les Jeux. C'est quoi tes... gros objectifs, on va dire, avant même que tu aies eu la bactérie et tout ça, c'était quoi, on va dire, tes gros objectifs de l'année ?
Je vais être un peu, vague, dans le sens où, pour moi, la priorité que je me suis mis depuis maintenant quelques années, c'est l'objectif, c'est de continuer de progresser, et de manière vraiment régulière, donc continuer à m'entraîner. Et en fait, j'ai envie de dire, la perf arrivera, et quand elle doit arriver. Donc vraiment, je vais essayer de continuer à m'entraîner, avoir l'objectif de faire des bonnes semaines, d'enchaîner les semaines, et ensuite, si ça doit arriver cet été, ça arrivera cet été, sinon ça sera plus tard. Donc j'ai, on va dire, même en termes de chrono, j'ai pas de chrono particulier en tête, c'est vraiment continuer à progresser, je bats mon record, tant mieux, je le bats de 10 secondes, 20 secondes. Mais on va dire que voilà, c'est vraiment ça l'objectif, c'est plus être constant, être régulier, continuer à enchaîner les bonnes semaines, faire un gros mois d'entraînement, deux gros mois, trois mois, idéalement encore un an, deux ans, et là, on pourra parler sérieusement d'objectifs.
Alors justement, en parlant d'entraînement, toi...
J'aimerais juste... pour ceux qui aiment quand même les chiffres, donc battre mon record, donc faire moins de 13-31, donc me rapprocher aux alentours des 13-20 pour essayer de prétendre une qualification aux Europes.
Ouais.
Même si le timing joue un peu contre moi. Mais voilà, essayer de me rapprocher des meilleurs européens. Pas des meilleurs, mais dans le top 20, top 30 européens.
Pour pouvoir prétendre à une qualification, en tout cas.
Oui, ou même si c'est après, cet été, être dans ces eaux-là. Et puis pour ensuite continuer à grappiller des places. Et puis dans quelques années, à faire partie du top.
Top. Justement, tu me parlais un peu d'entraînement. Toi, dans une semaine d'entraînement, combien au final tu vas faire de kilomètres ? Est-ce que on en parlait avant, tu disais qu'avant tu avais une certaine méthode d'entraînement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, peut-être un peu plus de volume, mais moins rapide. Au final, aujourd'hui, à combien de kilomètres t'es par semaine ?
Ces fameux kilomètres par semaine. Alors, on va dire que avec la méthode d'avant, j'ai quand même... Ça, c'est pour moi globalement vrai pour toutes les méthodes d'entraînement. Donc, j'ai eu cette augmentation régulière d'année en année. Donc, je tournais sur mes grosses semaines à 160 km, je dirais, et puis plutôt en phase d'approche de compétition, donc 210. Donc, j'étais sur une fourchette assez large. Donc, là, ce que je vais essayer avec mon nouveau coach, du coup, Vincent Guyot, d'essayer d'être beaucoup plus constant, quitte à en faire peut-être un peu moins.
Okay.
Donc on s'est fixé à peu près entre 130-150, je dirais. Et puis, on va essayer de voir, en fait, déjà voir comment je réagis à un mois, deux mois d'entraînement. Et ensuite, on pourra affiner pour la suite.
Donc, avec ça, l'objectif, ce serait de pas réduire d'autant de kilomètres au moment de l'approche d'une compétition.
Des compétitions importantes, si, forcément. Mais on va dire qu'il y aura moins de réduction brutale. Donc, c'est-à-dire que peut-être la semaine avant de la compétition, on va réduire, mais globalement, en fait, à l'année, on va essayer d'être sur quelque chose d'assez homogène.
Ok.
Sauf les compétitions importantes, naturellement.
Et donc, toi, tu prépares justement, tu me disais 5000, 10000.
Oui.
C'est quoi un peu les séances clés pour l'une ou l'autre distance ?
Les séances clés, déjà, il faut pouvoir les amener. Donc, ça va se passer par beaucoup d'entraînements d'aérobie, dans mon cas maintenant. Après, ce que j'ai fait par le passé, ça va être, j'ai déjà fait par exemple sur du 10 000, un 5 000, 3 000, 2 000, avec des récup à peu près de 5 minutes, 4 minutes. Donc les fameuses grosses spé, ça peut être des 10 fois 1 000 récup 1 ou des 10 fois 1 000 récup 30 secondes à l'allure. Donc ça, c'est des grosses séances, et une fois qu'elles sont passées, ben, voilà, on sait qu'on est prêt, que le jour J, ben, on va être à peu près dans ce qu'on s'était fixé.
Okay.
Et sur 5 000, bah, ça va être par exemple 2 000, et puis qu'est-ce que j'ai eu, 2 000, 3 fois 1 000, ou à peu près 5 000 de volume sur des efforts assez longs, avec forcément une montée en puissance, et où on finit, on se rapproche de la compétition, donc on essaye de finir comme un dernier 1 000, et en général, ça s'est plutôt bien passé pour moi les derniers championnats de France à chaque fois.
C'est le genre de séance que tu faisais une semaine, deux semaines avant ?
Ouais, J-10 en général.
J-10.
Classique. Ah.
Oui. Une semaine type d'entraînement au final pour toi, tu vas, j'imagine, régulièrement doubler.
Oui. Qu'est-ce
que tu mets en place ? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, des séances de muscu à côté ? Est-ce qu'il y a, enfin, c'est quoi un peu ta semaine type d'entraînement ?
Alors, ma nouvelle semaine type, on va dire que c'est plus les intensités qui ont changé, mais la structure n'a pas changé. Donc ça va être lundi matin, footing easy, easy jog. Ça va être 40 minutes par exemple. Le soir, ça va être séance d'intensité. Donc maintenant, ça va être ma plus grosse séance d'intensité. Donc ça va être au-delà du seuil 2.
Okay.
Après, à voir. En fonction à voir de la période. Le mardi, ça va être deux footings faciles. Donc d'une quarantaine de minutes, après avoir plus ou moins 10. Le soir, direct après le footing, une grosse séance de musculation.
Okay. Donc ça, tu enchaînes le matin après le footing ?
Le soir.
Le soir,
je vais faire par exemple le matin un footing tranquille. En général, le mardi, j'enchaîne avec le kiné. Et ensuite, le soir, footing et muscu. Donc ça me fait une bonne journée. La muscu, en général, c'est on fait de la force. Donc c'est des bonnes séances où on a, au total, on tourne autour de 3-4 mouvements de force. Et ensuite, on met aussi du gainage et puis des appuis. Donc, c'est quand même une bonne séance d'une heure et demie.
Où tu dors bien après.
Ouais, en général. Ensuite, le mercredi, ça va être un footing le matin et une séance le soir. Donc, ça va être quoi ? Du seuil 2 plutôt.
Ok.
Et le matin, des fois, ça peut être off aussi. Ça dépend.
Okay.
Ça
en dépend de la veille.
C'est ça. Le jeudi, pareil, comme le mardi, donc deux footings avec une muscu, toujours sur le même thème.
Mm-hmm.
Donc encore une fois, une bonne muscu. Mais en général, le reste de la journée reste tranquille. Et le vendredi, le fameux, double seuil. Donc seuil 1 le matin et seuil 2 le soir.
Donc toujours faire un peu de muscu, mais en soi, c'est pas nouveau non plus, mais de faire un peu de muscu la veille des séances.
Oui.
Pour justement travailler un peu sur la fatigue et être plus
oui,
à l'aise
après,
en compète aussi.
Je sais pas, c'est plus que ça nous arrange de faire comme ça. Mmh. Après, les grosses courbatures, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a en début de cycle ou de saison. Donc en fait, au bout d'une semaine ou deux, une fois qu'on a fait les grosses courbatures, presque on boite le lendemain, donc c'est pas très sympa. Mais le reste de l'année, franchement, vu que j'ai l'habitude, je ressens pas plus de fatigue que ça, en tout cas.
Ok. Et ensuite, le samedi, dimanche, ça va être quoi ? Des sorties longues ou...
Le samedi, ça va être un footing. Ou donc soit cool, soit une endurance. Donc ça veut dire un footing entre à peu près 15 km/h. 15 ou 16, ça dépend. Donc un footing, voilà. Ça peut doubler le soir, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, off. Et le dimanche, sortie longue.
Donc tu n'as au final aucun jour complet de récup dans la semaine ?
Non, c'est ce qui change aussi avec mon ancien entraînement. Avant, j'avais régulièrement un samedi off.
Ok.
Et maintenant, j'ai plus de jours off.
D'accord.
Ou vraiment à la marche, quoi. C'est s'il en faut un, on le prend, mais voilà.
Mais en tout cas, dans la préparation, il n'y a pas de prévu.
Non.
D'accord. Et est-ce que tu mets justement des moyens de récupération en place ? Alors, il y a forcément le côté kiné et ce genre de choses, mais est-ce que tu as, je ne sais pas, des bottes de presso ou de la cryo ou... Est-ce que tu mets des choses en place ?
Alors oui, je mets des choses en place. Déjà, j'ai au moins les deux séances chez le kiné. Donc, je vais voir mon kiné le mardi et le jeudi, j'ai oublié de le préciser. Et nous, on a de la chance à Dijon d'avoir les kinés au stade le soir. Donc, des fois, après les séances de la semaine, on a le lundi, mercredi, vendredi, on a les kinés à disposition. Donc, soit pour faire une récup, soit si on a y en a qui se blessent, au moins, ils peuvent tout de suite voir quelqu'un. Donc, ça, c'est l'avantage qui a été mis en place dans notre club. Et pour ça, c'est quand même une grande force.
Okay.
Un gros atout.
Dis-moi.
Et du coup, pour ce que j'ai mis en place, on va dire que maintenant, je me focalise vraiment sur l'essentiel, donc hydratation, alimentation et sommeil. Et on va dire que ça, c'est quasiment plus de 95% de la récupération. Donc, je vais vraiment faire ça bien. C'est pour ça que je ne vais plus vraiment à la cryo. Les bottes de presso, je les ai, mais je ne suis pas très assidu là-dessus. Je me concentre vraiment sur la base, en fait.
Qui, au final, comme tu l'as dit, fait le plus gros du boulot en général.
Parce que si c'est au détriment d'une sieste ou d'autre chose, je préfère vraiment bien manger, bien dormir, manger aussi suffisamment. Parce que si on est un peu en déficit calorique, forcément, on va être un peu fatigué, on va avoir le plus de risques de blessures, ou on va moins enchaîner. Donc vraiment, la base. Après, forcément, j'essaye de faire de la cryo de temps en temps, ou des bains froids, ou des protocoles de récupération, ça forcément.
Mais c'est, en tout cas, c'est pas la priorité dans ça. Et au niveau entraînement, la question que j'aime bien poser aux athlètes, c'est quoi ton entraînement favori, celui que tu vas préférer, celui où quand tu vas aller au stade, tu vas dire j'ai vraiment hâte de la faire cette séance.
Moi, je ne suis pas trop difficile toutes les séances. Après, j'aime beaucoup les entraînements au seuil. C'est aussi pour ça que je me suis tourné vers ça, où on a des bonnes sensations, on n'est pas trop fatigué, on peut bien enchaîner. Donc, ça, franchement, j'aime bien. Et puis, de temps en temps, forcément, courir vite, quand on n'a pas pu vraiment courir vite, forcément, c'est satisfaisant.
C'est toujours plaisir. Et une séance, peut-être que tu aimes moins et tu es obligé de la faire, mais tu aimes un peu moins.
Ouais, je dirais les grosses séances assez lactiques, donc les SP15, les séances où en fait, j'ai pas trop l'habitude d'en faire. Ça, je sais que c'est pas la séance en elle-même, mais c'est plus l'après qui est compliqué.
Oui, parce que sur un 5000 et un 10000, on travaille clairement pas les mêmes filières.
C'est ça.
Alors, justement, en termes d'entraînement, on t'a déjà vu utiliser le lecteur de lactate.
Oui.
C'est quelque chose que tu utilises maintenant régulièrement, que tu as mis en place dans ton entraînement et qui est important pour toi.
Oui, justement, en fait, je l'ai mis en place donc, il y a maintenant presque 2 ans. Donc, au début, pour travailler dans les bonnes zones et éviter le surentraînement, donc mieux contrôler l'allure. Et maintenant, avec mon nouveau coach, c'est clairement... sa manière de faire, de travailler. Donc là, chaque séance de seuil, seuil 1, seuil 2, on utilise le lactate pour être vraiment précis et ajuster les allures pendant la séance ou après.
Et ça, tu le vois régulièrement, ton entraîneur, ou tu le fais seul et tu lui donnes les chiffres ensuite, ou comment ça se passe ?
Eh bien, on est à distance pour le moment. Donc là, on va se voir à Font-Romeu, donc ça va être plus simple. Après, oui, je lui fais tout le temps des retours. Tous les jours, il a accès à... tout ce que je fais exactement, donc il sait les allures, il sait le lactate, il sait tout. Donc on en ajuste. Après, je suis aussi autonome, donc je sais ajuster si en fonction de la valeur de lactate, je ralentis un peu ou j'accélère. Donc ça aussi, pour le moment, ça va.
Donc au final, ton entraînement est quand même très millimétré. En tout cas, toi, c'est quelque chose qui te convient aujourd'hui, cette manière de fonctionner.
Oui, totalement.
Alors justement, pour la suite de ta carrière, toi, tu es plutôt sur le long, on l'a dit avant, le 1500 et les séances lactiques, c'est moins ton kiff, on va dire. Sur la suite de ta carrière, comment tu vois la suite?
Après, pour revenir sur le 15, j'ai quand même envie de faire un beau chrono à terme. Donc, on va
parce
dire
que là, t'étais à 3,40...
3,42, ouais. Ouais. C'est pas terrible, mais on va dire que je l'ai pas trop préparé, mais je reste persuadé qu'avec une bonne prépa, même sur 5000, 10000, on peut quand même courir vite sur 15. Et c'est pour ça que j'ai envie quand même d'abaisser le chrono.
Et justement, t'en feras cette année?
J'aimerais bien en faire.
Ça, en tout cas, c'est le petit objectif.
Oui, j'ai envie de battre tous mes records de toute manière. Donc, que ce soit 15, 3000, 5000, 10000.
Donc, ça y passe par là.
Oui, on verra.
Et donc, pour la suite de ta carrière, tu vois ça comment?
Bah, la suite logique, je pense que ça surprendra personne. C'est, j'aimerais bien faire à terme, je ne sais pas quand exactement, j'ai un peu des idées, peut-être 2028 sur marathon.
D'accord.
Donc forcément, passer par le SMI, j'aimerais bien en faire soit peut-être à l'automne, soit l'année prochaine. En fait, avoir en fonction de la forme, du calendrier, ça c'est des... Bah, j'ai envie de faire aussi beaucoup de choses, donc il faut aussi que ça rentre dans le calendrier, que ce soit aussi logique, parce que voilà, faut pas oublier de progresser de manière globale. Donc je pense le marathon, ouais, sur... je sais pas quand je ferai ma rentrée sur marathon, mais avant toute chose, je pense que j'ai pas du tout optimisé encore la piste. Donc on va déjà passer par là et ensuite... je pense que maintenant, de toute manière, que ce soit sur marathon, c'est pas incompatible. Hein. On le voit avec Valentin Gondouin, Félix Bourg, qui sont capables, bah, même mes 10 frères, de faire du marathon. Et puis, ils refont un 10 000, ils battent leur record, et même sur 5 000, en fait. Donc, maintenant, on va dire qu'avec la nouvelle technologie, l'entraînement, on peut plus facilement switcher et faire des choses quand on a un peu plus de volume, en fait. On n'est pas forcément obligé d'être hyper spécifique, je pense.
Bah, de toute façon, tu le dis toi-même et mes 10 frères, pour le coup, c'est le très bon exemple. Ouais. L'été dernier, il fait une saison de 1500 mètres,
ouais,
qui n'est pas du tout sa spécialité non plus, pour faire ensuite derrière 2h05 sur marathon 3-4 mois après.
C'est pour ça, en fait, si on a envie de faire une distance, bah, comme moi, l'année où j'aurais envie de faire du marathon, si ce n'est pas incompatible, pourquoi pas essayer, quitte à revenir sur la piste. Il n'y a plus de... Bon, les règles ont un petit peu bougé.
En tout cas, tu te vois bien continuer encore sur les 3-4 prochaines années sur piste, parce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose à ouais, aller chercher encore, bah, en termes de chrono notamment.
Bah, c'est ça, au moins les 2 prochaines années. Après, à voir si c'est uniquement focus marathon ou pas, ça, en fait, on verra aussi à l'envie, on verra aussi au progrès. Il y a aussi ça qui va dicter, hein, de toute façon, c'est évident.
Bien sûr. Bah, on va suivre ça de près, déjà cette saison et puis les années qui suivent. Merci à toi.
Ben merci à vous.
Le podcast commence à toucher à sa fin. Merci pour cet échange. Ça permet un peu à tout le monde de te connaître davantage. Tu aurais peut-être un dernier petit mot, un mot de la fin, quelque chose qui te passe par l'esprit ou...
Bon, je dirais qu'il faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, que ce soit en distance ou autre. Et je pense que ça, c'est un bon vecteur de progrès.
Le message est passé. Merci à toi. Je te souhaite du coup une très belle saison, un bon stage donc en altitude qui arrive là dans les prochains jours. On espère évidemment te revoir performer au haut niveau et avec le maillot d'équipe de France. Merci à la marque Puma donc d'avoir sponsorisé ce podcast. Nous, on se donne rendez-vous donc très rapidement pour un prochain épisode de Call Room. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos épisodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou via nos réseaux sociaux. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc encore merci à vous pour le soutien. Merci à toi Fabien et à très vite.
Merci à vous.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.